Nous présenterons plus de 200 films de 46 pays, présentés dans un espace de diffusion en ligne, Artfilm, 8 espaces de projection à Montréal et à Québec. Nous avons créé 3 cinémas pop-up. Il y aura plus de 50 projections à Montréal, 10 à Québec, plus de 70 bénévoles nous prêteront main forte. Merci beaucoup à tous les bénévoles. Merci à René Lauzon, qui a fondé le festival il y a 40 ans.
Alors, on vient d'entendre, cher auditoire, la musicienne Janine Jensen qui interprétait, bien sûr, Vivaldi Spring de circonstance en cette veille de printemps et qui est en vedette dans un film FIFA. Voilà, c'est une belle recommandation de film à voir pour ce qui est du volet musical. Et on vient aussi d'entendre tout de suite après un aperçu de la soirée d'ouverture enlevante du FIFA mardi passé. Et voilà, on a entendu aussi un moment fort, c'est l'annonce d'un prix à remettre au fondateur du festival, René Lauzon. Alors, quelle grande nouvelle! Et puis, il y avait une ovation debout. Et puis, fidèle à notre tradition annuelle, eh bien, on va faire en équipe un retour sur des films du Festival international du film sur l'art. Et avec la participation, donc, de Léna Guillot, moi-même, Robert Locop, Sophie Pardot, Pierre Archambault. Alors, on va commencer je pense que Léna Guillot est déjà en onde pour nous parler de deux films qu'elle recommande. Léna Guillot, es-tu en onde?
Oui, bonjour.
On va monter le son. Léna Guillot?
Oui.
Oh, OK, ben parfait, je t'entends au moins. Écoute, on a de l'espoir d'avoir une deuxième partie d'émission qui va mieux se dérouler que la première. Je te remercie d'être disponible en ce samedi.
Ben, merci.
Merci.
Alors,
beaucoup.
Écoutez, j'ai deux films qui m'ont plu énormément.
Oui.
Jean de La Fontaine, L'homme qui aimait les fables, de Pascal Bouhennik. C'est un visionnement en ligne et on voit l'évolution à travers les siècles et à travers les artistes de toutes les époques.
Oui.
De comment ont évolué les illustrations des célèbres fables de La Fontaine.
Ah, oh, c'est intéressant.
C'est fantastique, c'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Alors, vous verrez des œuvres très rares, comme exemple d'artistes tels que François Chauveau, qui est un des premiers artistes à avoir dessiné les illustrations à l'époque de Louis XIV.
Oui.
On se rend jusqu'à Gustave Doré, qui est renommé pour ses impressions. Comment t'appelles ça, là? Ses gravures ordinaires et phénoménales.
Oui.
Et on a même jusqu'à Marc Chagall, mais il y a beaucoup plus d'artistes que ça. C'est un film de très belle qualité visuelle et cinématographique. On voit des plans d'archives, on retrace l'histoire de l'évolution de Jean de La Fontaine avec des esquisses des jardins qu'il faisait à l'époque de Louis XIV. C'est complètement hallucinant. Nous, on croit que les riches ont inventé quelque chose, mais les gens de l'époque de Louis XIV, oh my God!
Oui, alors écoute, c'est un beau voyage dans l'histoire et dans les différents artistes qui ont illustré les fables de La Fontaine, qui ont été marquantes, en tout cas, qui ont été marquantes pour moi, j'imagine pour toi aussi, Léna.
Oh que oui, oui, bien sûr, tout le monde grandit avec les histoires comme le bœuf et la grenouille, comme exemple. Il y en a plusieurs, là, mais c'est partout dans la culture qu'on dit de l'Ouest, là, de notre culture à nous. On a des exemples des fables de La Fontaine partout.
Et ça parle de la nature humaine à travers des fables, mettent en scène des animaux les animaux que nous adorons.
Oui, c'est ça. Mais c'est un très, très beau film.
Alors, belle recommandation, Léna. Merci beaucoup. Est-ce que ce film-là se représente en salle ou il est en ligne, plutôt?
En ligne.
Il est en ligne jusqu'à la fin du festival au 27 mars. Et puis, vraiment, une belle recommandation. Et je l'avais dans ma liste de films à voir absolument. Merci, Léna. Et tu as aussi un autre film que je souhaiterais nous recommander.
Oui, mon vrai coup de cœur jusqu'à date.
Allons-y.
Mon plus grand coup de cœur.
Baudelaire.
La femme sans nom.
Oui.
Histoire de Jeanne et Baudelaire.
Mm-hmm.
Par Régine Abadia.
Oh.
Disponible en ligne aussi. Puis lui, c'est dommage qu'on peut pas le voir sur grand écran parce que la cinématographie t'a coupé le souffle.
Oui.
Il y a des images qui sont oh mon Dieu. Mais c'est mon grand coup de cœur parce que c'est un film qui touche à plusieurs choses qui nous affectent encore, comme le racisme,
oui,
le sexisme. Mais principalement, c'est un film qui tourne autour d'une toile très reconnue, L'allégorie du réel par Gustave Courbet.
Ben oui, une œuvre culte.
Récemment, les gens ont remarqué qu'un visage était en train d'apparaître là où il n'y avait pas de visage.
Oui.
Et là, bien sûr, les historiens de l'art se penchent sur ce phénomène-là. Et là, nous, on suit l'histoire de du grand poète Baudelaire et son extraordinaire histoire d'amour avec une femme qui s'appelle Jeanne Duval.
Oui.
Qui a été effacée par l'histoire et puis qu'on retrouve son visage qui est en train de refaire surface dans cette toile-là. C'est vraiment, vous allez adorer ça. Et on a aussi un coup de cœur dans ce film-là,
oui,
que j'adore. Moi,
oui,
j'adore les films d'archives. Donc, en racontant l'histoire de Baudelaire, on commençait déjà à faire du cinéma. Donc, on va montrer des films pris à ces époques-là. On voit le Paris de ce temps-là. Là, en plus, on voit comment Paris évolue. C'est complètement hallucinant. On rencontre des peintres, des auteurs, etc. Parce que Baudelaire était dans la clique des grands peintres du 19e siècle. Hein? Sauf que lui, bien sûr, qui a été obligé de gagner sa vie comme critique d'art parce que les poètes sont toujours pauvres un peu.
Oui.
Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Mais
c'est aussi un film.
C'est une belle histoire d'amour.
Alors oui, il y a une belle histoire d'amour, mais il y a aussi tout un pan de l'histoire de Baudelaire et l'histoire qui était un petit peu une relation qui était quand même un peu secrète, hein, je croirais.
Ben, c'est parce qu'on découvre, bien sûr, c'est une femme de couleur.
Oui.
C'est pour ça que c'est le racisme qu'on découvre encore. Mais le racisme, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, c'est sûr. Mais comme exemple, quand le film ouvre, on voit des auteurs, des hommes, auteurs français. Je les connais pas toutes parce qu'on a différentes époques de commentaires. Mais jusqu'en 1950, par exemple, les critiques qui parlent de cette femme-là, qui ont jamais connu de leur vivant, là, la traite de tous les noms de prostituées.
Hey, mon Dieu, alors, c'est un film qui fait réagir énormément, Léna. Alors, je pense qu'il t'a interpellé énormément. Merci beaucoup, Léna. Et je pense que tu as aussi beaucoup apprécié un film dont on va parler tout à l'heure, là, Le musée et le millionnaire anticonformiste. Quelqu'un de l'équipe va en parler, mais toi aussi, tu l'as beaucoup apprécié, hein, ce film-là.
Beaucoup,
tu l'as vu,
puis,
tu le recommandes.
Qui sont des jeunes artistes contemporains devraient aussi le regarder parce
absolument
que ça lui donne un bon cue pour comprendre le milieu dans lequel ils veulent gagner leur vie parce qu'on apprend des choses que j'aurais pas bon, on soupçonne, mais là on voit comment ça marche.
Merci beaucoup, Léna, et je pense que tu vas regarder bientôt un film je pense que tu souhaitais voir. Malheureusement, tu vas le regarder, je pense, au cours des prochains jours, Basquiat, hein? Tu vas regarder le film Basquiat.
Exactement.
Bon,
mais
tu nous en
reparleras. Vas en parler aujourd'hui, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup pour ces deux recommandations de films qui étaient tous les deux dans ma liste, à moi aussi. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On poursuit.
Bye bye!
Et on tente de rétablir la situation avec ces problèmes techniques dans le début d'émission. Merci.
Bonne fête, Chantal.
Merci. Oh, merci. C'est demain pour aujourd'hui.
Et pour merci. Ça, je te parle aujourd'hui. C'est la fête de Chantal.
C'est
bye
gentil.
Bye.
Merci.
Bye.
Bye. Alors, on va poursuivre avec Robert. Qui es-tu? Robert, es-tu remis un peu de tes émotions là, en ce début d'émission difficile? Es-tu en mesure de nous parler des deux films que tu recommandes?
Oui, ouais. Mais c'était ouais, un peu pénible. Il y a eu un blackout total. On a perdu complètement l'ordinateur.
On est tellement malheureux de n'avoir pas pu devoir reporter l'entrevue avec Emmanuel. Mais soyez à l'écoute la semaine prochaine. On va tout faire pour que cette entrevue ait lieu avec Emmanuel, qu'on apprécie énormément. On est tellement malheureux. Merci, Robert, de nous parler de tes deux recommandations de films dans le cadre du FIFA. Hein?
Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères.
Ah, merci, mec. J'aurais aimé ça avoir un beau cadeau d'une émission qui se déroule telle que prévu.
Moi, je voulais vous parler de deux films que j'ai vus. Donc, il y a Jean-Michel Follon.
Oui.
Ben, le film s'appelle Follon. L'artiste Jean-Michel Follon, 1934-2005. Alors, c'est un artiste très contemporain. C'est un gars qui est, c'était un factotum, quelqu'un qui faisait un peu de tout. Le problème avec le film, cependant, c'est que le rythme est assez lent. Ça dure 1h30, ça aurait pu être en 1h.
Oui.
Follon lui-même, c'est un gars qui faisait vraiment tout, comme je disais. Il a étudié l'architecture.
Oui.
Mais il se définissait surtout, je pense, comme un dessinateur. Le type affichiste, voire caricature, parce qu'il y avait des trucs assez engagés.
Oui.
Il y a un truc, normalement, généralement, il travaillait souvent, en tout cas, à l'aquarelle, mais il y avait des choses qui étaient vraiment beaucoup noir et blanc, très épurées, comme un tableau où on voit, par exemple, des avions qui sont représentés sous forme de croix, simplement, qui volent dans le ciel.
Oui.
Et ce sont des avions qui bombardent, visiblement, puisque en dessous, il y a seulement, sur le sol, des croix aussi. Alors, des croix, alors, horizontale au ciel, des croix verticales. C'est très épuré, puis ça parle beaucoup en même temps. C'est un gars qui a été assez quand même reconnu, même s'il n'était pas reconnu nécessairement par la critique comme tel, comme artiste.
Par le milieu, il était très reconnu.
Il était reconnu comme dessinateur, graphiste, enfin, je ne sais pas.
Affichiste.
Il a fait des couvertures pour le New Yorker, l'Atlantic, Times.
Donc, ça ouvre les portes.
Et il a fait aussi beaucoup d'autres choses, comme des sérigraphies, des céramiques. À un moment donné, il s'est mis à faire des trucs avec des objets récupérés. Et puis... il a fait vers la fin de sa vie de la sculpture, alors c'est un gars à découvrir, je ne le connaissais pas, et puis c'est vraiment quelqu'un d'intéressant.
Et la qualité, le film, comment est-ce que la qualité du film?
Le film est dans la tradition
très classique,
mais ce qui surprend un peu, surtout, comme je vous dis, c'est la lenteur. Il faut vraiment se plonger dans le rythme que le film nous impose.
Ah, ben ça peut être souvent une expérience proposée par le meilleur visuel, cette lenteur, cet autre rythme.
On a souvent des plans d'eau, par exemple, etc. Ce qui conclut assez bien le film, parce que dans le fond, à la fin de sa vie,
c'est la beauté du festival.
Il a investi beaucoup d'argent dans un voilier, il a fait des croisières à la Méditerranée, etc.
Un film qui fait rêver.
Oui.
Et t'as un deuxième film qui est vraiment hautement d'actualité.
Oui, ça s'appelle High Maintenance, The Life and Work of Danny Caravan.
Oui.
Danny Caravan, c'est un artiste israélien qui a fait beaucoup de réalisations d'œuvres publiques, des choses comme ça. On voit, par exemple, ça commence avec un silo, une sorte de silo qu'il a construit, une tour, et dans laquelle on entend le vent siffler, etc. Il a fait des passerelles, des places publiques, des choses comme ça. Et la thématique du film, si on veut, qui c'est très intéressant, parce que c'est passé lui-même, c'est simplement quel respect on accorde aux œuvres d'art. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont construites, mais qui ne sont pas nécessairement entretenues selon les spécifications de l'artiste.
C'est ça.
Et près de chez moi...
Pour avoir regardé le début du film, déjà, il se plaint en début de film d'une œuvre qui est mal entretenue.
Tout près de chez moi, il y a un cas comme ça, l'hôpital Notre-Dame. Il y a un petit square à côté de l'hôpital. Et puis, il y a une œuvre massive de laquelle coulait un filet d'eau à l'origine. Puis maintenant, depuis plusieurs années, le filet d'eau n'est plus là. Alors, l'œuvre perd un peu son sens, parce que c'était le filet de vie qui coulait de la masse de pierre. Il n'y en a plus de filet, là. Et lui-même a fait un escalier, à un moment donné, qui est comme en deux travées.
Oui.
Et puis, entre les deux, il y avait une rigole dans laquelle devait couler de l'eau.
Oui.
Et ça ne coule plus. Et il y a des choses comme ça, comme par exemple, des jardins aménagés sur une place publique, etc. Il y avait des notifications pour les fleurs, les couleurs, etc. Ça n'a pas été respecté. Et plus que ça, à un moment donné, vers la fin de sa vie, il travaillait sur une œuvre qui devait rendre hommage aux Polonais qui avaient aidé des Juifs durant la guerre. Et là, à un moment donné, il est pris dans toute la controverse que les tractations politiques autour de ça. Bon, alors, ça fait beaucoup réfléchir sur l'influence de l'art.
Et une cinéaste aussi qui s'intéresse, ici, il y a eu Suzanne Aubry qui s'est intéressée aussi à l'entretien des œuvres d'art public, en a fait toute une série, mais merci beaucoup, merci beaucoup Robert de nous avoir fait tes deux recommandations. Alors, dans mon cas, écoutez, j'ai des longs métrages, je n'ai pas eu de gros coups de cœur, je souhaiterais plus laisser le temps à mes collaborateurs, mais moi, je vais vous parler de deux films sur quatre. Alors, Robert va essayer de joindre tout de suite Sophie Pardeau. Je vais vous parler de deux films sur quatre et les deux autres films, écoutez, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Que voulez-vous, c'est la dure réalité des problèmes techniques. Alors, je vais quand même tout de suite vous informer qu'il y a le film, je vais vous parler d'un long-métrage et un court-métrage. Par contre, le court-métrage, lui, c'est un beau coup de cœur. Alors, tout d'abord, le film tant attendu, 305 Belles Chasses, premier long-métrage de Maxime Claude Lécuyer, en première mondiale, compétition officielle dans le cadre du 40e, de la 40e édition du FIFA. Eh ben, le film, vraiment, sur l'emblématique atelier d'artistes, le 305 Belles Chasses, là, où il n'y a plus maintenant d'artistes, eh ben, étonne, car il donne avant tout la parole à 9 artistes connus du milieu visuel et à leur vécu artistique, leur expérience artistique pendant un très long moment, gardant finalement pour la toute fin la problématique de l'éviction des ateliers d'artistes après la vente de l'édifice. Alors, on a plusieurs artistes là, qui s'expriment, là, Marc Séguin, Sylvain Boutillette, David Lafrance, David Elliott, Nicolas Grenier, Janet Werner, Christine Major, Alexis Lavoie, Jean-Benoît Pouliot, Elisa Griffiths. Alors, oui, ce film est quoique très intéressant et réunissant des artistes visuels vedettes, nous laisse tout de même perplexes, parce qu'aucun artiste, d'autant plus, n'exprime d'inquiétude, là, n'exprime de préoccupation par rapport à leur éviction à venir. Les témoignages sont en trop grand nombre, et puis le concept là, d'aller d'un atelier à l'autre est répétitif. Le film s'étire en longueur, avec un trop de détails. Alors, il aurait fallu finalement un petit peu réduire la durée du film et nous offrir une fin moins précipitée, qui nous laisse d'ailleurs sur notre fin. Alors, bien dommage, mais on peut voir le film tout de même. Vous pouvez vous faire vous-même votre opinion. Vous pouvez voir le film en présence du réalisateur et de son équipe le 26 mars à 19h15 au Centre canadien d'architecture au théâtre Paul Desmarais. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre film que je trouve quand même assez bon, mais qui n'est pas un coup de cœur, le film Maija Isola, Master of Color and Form. C'est une célèbre designer et artiste visuelle de Finlande. En terminant, je vais vous recommander un des deux courts-métrages que je trouve fort réussi. Alors, l'envoûtant film Wallace Chan, The Art of Material of, de Martinez Margot. C'est une réalisatrice primée et le film consiste vraiment en un portrait d'un artiste joaillier et sculpteur qui nous transmet sa croyance que chaque matière est vivante et a son propre caractère, qu'elle véhicule des émotions, qu'elle est porteuse de mémoire. Et voilà, des matières qui peuvent aussi dialoguer. Alors, on a une démonstration de tout ça dans le film. Et voilà, un artiste qui a été moine pendant plusieurs mois, qui a été transformé par cette étape de sa vie. Et le film bascule à un moment donné dans une forme de rituel qui est magnifique. Alors, écoutez, on est complètement captivé par le film du début à la fin. Et ça se termine sur un gros plan sur ses œuvres. Alors, ça vaut de voir ce film d'un artiste qui est aussi, en plus, artiste joaillier, fasciné par la lumière. Voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre court-métrage qui m'a beaucoup marqué, pour Jenny. Et un court-métrage saisissant et surréaliste. Mais le temps nous manque en raison de cette émission un peu écourtée. Alors voilà, on va joindre tout de suite Sophie Pardeau. Bonjour, on te joint, Sophie. Écoute, quel événement aujourd'hui, un gros problème technique en début d'émission, ça a mobilisé 3 techniciens. Alors, Sophie, merci d'être avec nous, puis de nous présenter rapidement là, tes recommandations de films.
Des recommandations, donc 3 longs-métrages et 2 courts-métrages. Je vais commencer par Joanne Mitchell, Une femme dans l'abstraction, est un film français, dont le cinéaste est Stéphane Guez, en première nord-américaine. Le film est un portrait de Joanne Mitchell, figure majeure de la peinture contemporaine du XXe siècle. C'est une des rares artistes féminines qui réussit à s'imposer par sa forte personnalité au sein du cercle très fermé, composé majoritairement d'hommes tels que Klein, de Kooning et Pollock. Donc elle s'impose dans l'art abstrait d'après-guerre. Son travail est rapidement reconnu tant à Paris qu'à New York. C'est un portrait intimiste qui témoigne de sa grande vitalité et de sa détermination. Le cinéaste dévoile progressivement son œuvre au travers de témoignages d'amis, mais aussi grâce à des archives d'entrevues de l'artiste.
Oui.
On suit aussi sa vie amoureuse, dont Rio Pelle a fait partie pendant une période donnée.
Mmh.
Donc c'est un film dont les sources sont très variées et très complètes. C'est une proposition très sensible et sensuelle même, je dirais. Donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi.
Oh, tant mieux.
Le film est présenté au cinéma du musée à séance 42 le samedi 26 mars à 15h et à 17h.
D'accord, merci beaucoup. Quelle belle recommandation pour ce film.
Mon deuxième coup de cœur également, n'est-ce pas?
Oui.
Donc c'est un film français et roumain qui s'appelle Topographie du hasard de Eva Père Volovici, un long métrage en compétition. La réalisatrice nous propose un film sur le travail de l'artiste roumain Daniel Spoeri. Elle commence par nous présenter la fouille archéologique des restes d'un banquet enterré ayant eu lieu en 1983 en banlieue parisienne. Et de la même façon que ces archéologues, avec un rythme lent, mais non sans surprise, nous découvrons la complexité de la réflexion et la profondeur de son travail. On se rend compte de toute la dimension de sa réflexion et la mesure des gestes de l'artiste au travers de ses souvenirs et de son pays. Il est né en 1930. Daniel Spoeri est un artiste plasticien suisse d'origine roumaine. Il offre un théâtre des objets au travers du Hit Art qu'il instaure officiellement au sein du nouveau réalisme des années 60.
Mmh.
Il fait des assemblages d'objets appelés des tableaux pièges car ils sont fixés sur les surfaces.
Mmh.
Donc, on est témoin d'une véritable dissection émotionnelle abordant divers sujets comme la vie, la mort, le souvenir, le passé et l'éternité. Il reproduit ensuite des objets en bronze placés dans la nature pour éterniser les moments et qui sont incrustés dans la matière.
Oh.
Et qu'il définit lui-même de memento eterno. C'est un voyage profond et très sensible. Je vous le recommande vraiment, vraiment. C'est aussi un film, vous verrez, d'actualité. Ça rejoint certains aspects actuels de la vie politique, géopolitique. Donc, il est visible seulement en ligne désormais ce film.
Mais
je vais y aller avec un troisième.
Allons-y, allons-y.
Coup de cœur. En première nord-américaine aussi, Georgia O'Keeffe, une artiste au Far West, est un long métrage français réalisé par Evelyn Shells.
Je l'ai vu.
Un phare de l'art moderne américain en ressort une forte volonté de liberté et d'indépendance. Sa vie est jalonnée entre une fusion passionnelle avec son mari, photographe et galeriste de renom, Alfred Striglitz, et sa passion du Nouveau-Mexique, dont le paysage et ses caractéristiques l'inspirent perpétuellement. La réalisatrice présente des entrevues et des archives intimistes qui dévoilent la fragilité et la sensibilité d'une femme forte et résiliente à la fois. Elle est déterminée et terriblement indépendante. Elle mène une vie de 98 ans très riche, ce qui la caractérise et qu'elle elle est une avant-gardiste finalement, et elle développe une affinité avec les formes et la nature. C'est un film très bien documenté et on suit très bien l'évolution de l'œuvre de Georgia O'Keeffe.
Alors, c'est un film,
c'est
Sophie.
Également. Donc, les séances en salle ont lieu au cinéma du musée vendredi 25 mars à 17h30 et 19h30.
Alors, Sophie, c'est un film.
Je peux enchaîner avec mes deux coups de cœur de court-métrage, Chantal.
Sophie, c'est un film captivant, mais on découvre des moins beaux côtés de Georgia O'Keeffe que je ne connaissais pas, tout son caractère un petit peu, son côté ermite. Hein? On le connaissait moins, ce caractère-là. Alors, Sophie, on va terminer avec peut-être un court-métrage, peut-être sur trois. On ne peut pas parler de tous les courts-métrages.
D'accord. Alors, je vais y aller avec Les Oliviers, Piliers du temps.
Allons-y.
C'est un court-métrage de 13 minutes, en compétition d'ailleurs. C'est un court-métrage français dont le cinéaste est Alain Fleischer, dans la catégorie art paysager et écologie ainsi que photographie. Alors, Alain Fleischer présente le portrait de 16 oliviers millénaires de Bacha. Chalet, au Liban. C'est une ode au temps, à la matière vivante, à l'éternité. C'est une œuvre contemplative. Le texte et la réflexion est très poétique. La vidéo et les effets lumineux font des arbres des êtres à part entière. La musique aussi est très sensible. Sous forme méditative, on rentre en fusion avec ces entités et l'on comprend le parallèle entre leur force et l'humanité. Ce film a été présenté à la Biennale internationale d'architecture de Venise. La séance en salle a lieu en présence du réalisateur lui-même, Alain Fischer, le 19 mars au Centre canadien d'architecture.
Alors, merci
donc
beaucoup.
À 14h30 et 16h30, c'est un coup de cœur également.
Merci beaucoup, Sophie.
Alors, bon visionnement.
Sophie, alors je mentionnerai tes deux autres choix de court-métrage dans le blog, l'article sur le blog. Merci encore. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci de ta participation. Merci. D'Ariane Roy, quand je serai grande, en vedette dans un vidéoclip FIFA. On poursuit avec Pierre pour ses recommandations de films. Bienvenue, Pierre. On s'excuse, on a eu toute une émission, un début d'émission difficile. Merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Oui, allons-y, Pierre, avec tes recommandations.
Alors, je débute avec Building Bastille, 1h16, c'est en anglais. Donc, il s'agit de l'architecte Carlos Ott, qui est un architecte torontois. Et ça se passe sous le règne de François Mitterrand, qui était président de la France à ce moment-là, et qui avait choisi Jacques Lang comme ministre de la Culture.
Oui.
Et tout ça pour un projet novateur, c'est-à-dire construire un nouvel opéra, l'Opéra Bastille. Donc, on engage un jury international. Il y a près de 200 projets qui sont soumis d'architectes d'un peu partout dans le monde. 6 sont choisis. Et là, il y a une querelle entre le maire Chirac, le maire de Paris, et François Mitterrand. Chirac est pas d'accord avec le projet choisi. Bon, on parle aussi de Carlos Ott qu'on demande vivement de se rendre à Paris pour présenter son projet. Son passeport est échu, donc il y a des problèmes à la douane. On lui dit de retourner au Canada, mais finalement, Mitterrand passe par-dessus le règlement. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça tout au long du film. On lui donne en fait comme durée 1 an pour préparer tous les plans et 3 ans pour construire l'opéra. Donc, il y a beaucoup aussi de détails de la famille de M. Ott qui sont à Toronto, qui doivent se rendre à Paris. Ça, vraiment, je trouve que c'est un peu surchargé le film.
Moi, j'ai trouvé
un bon 15 minutes avec tous ces détails qui n'ont rien à voir avec la construction de l'opéra. Voilà les coulisses. C'est intéressant dans l'ensemble, mais un petit peu trop de détails qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet.
Mais parlons des films que tu recommandes, parce qu'on a très peu de temps, Pierre. Les films positifs, les films recommandés.
Milliardaire anticonformiste,
oui.
52 minutes, c'est un film de François Pinault.
Mm-hmm, le collectionneur célèbre.
Donc, François Pinault engage l'architecte japonais Tadao Ando, qui, au début, on le voit faire les dessins très rapides de la coupole de la bourse de commerce qui a été construite au 16e siècle. Donc, il s'agit de restaurer ce bâtiment-là et le sauvegarder aussi parce qu'il était abandonné. Et tout ça pour présenter la riche collection de François Pinault. Donc, on parle des problèmes de béton, de l'acoustique aussi. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas de réverbération de son. On doit aussi installer une très grande murale sur toile qui va être restaurée et présentée sous la coupole en verre qui contient 2000 carreaux de verre artisanal. Donc, ils doivent demander à des artisans de fabriquer ces carreaux-là quand ils sont brisés. On connaît aussi tous les rouages de l'art contemporain à travers le film. Et on démontre que finalement, actuellement, ce sont les collectionneurs qui ont le haut du pavé, entre autres dans les collections muséales.
C'est un film que tu recommandes, Pierre, hein, parce que le temps file. Est-ce que c'est un film de qualité, à ton avis?
Oui, oui, c'est un excellent film.
Excellent film.
Représenté au Centre d'architecture.
Parce qu'il nous reste une minute.
Le 27 mars à 17h30. Oui. Et j'ai bien aimé aussi Mies on Barcelona.
Oui.
C'est l'architecte Mies van der Rohe. Donc, on voit au début le conservateur du MoMA, Musée d'art moderne de New York, qui présente des photos du pavillon de Barcelone en 1920.
Alors, Pierre, on doit vraiment se laisser, là, l'émission tire à sa fin. On va poursuivre la semaine prochaine parce qu'on aura une chronique pour compléter compte tenu des problèmes techniques. On va poursuivre la semaine prochaine. On s'excuse, Pierre, mais on doit quitter. L'émission va se terminer. Merci. Bonne fin de semaine.
Au revoir.
Alors, merci, cher auditoire. On se retrouve samedi prochain avec une émission qui, espérons, va bien fonctionner. Et tout ce qu'on n'a pas pu couvrir aujourd'hui, on va le recouvrir la semaine prochaine dans le cadre du FIFA. Allez participer au FIFA. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Portez-vous bien. On termine avec Ariane Auroi.